Mais bien, chers amis, les journaux nous ont passablement parlé du nouveau parti lors de sa fondation à Ottawa il y a quelques semaines. Nouveau, fondation, au fond, c'est rien que le même parti socialiste canadien qu'il y avait auparavant, en lui adjoignant d'autres éléments et en lui donnant un nouveau nom, lui cherchant d'autres sources de finances. Qu'est-ce qui se réunissait à Ottawa pour ce fameux parti nouveau? Bien, les socialistes de la CCF, socialistes qui comptent déjà 30 ans d'existence, les socialistes du PSD, c'est-à-dire les CCF de la province du Québec, les chefs socialistes de syndicats, les socialistes d'université, les socialistes intellectuels, et qui ont-ils élu comme chef? Tommy Douglas, le premier ministre socialiste de la Saskatchewan, comme orateur. On y a fait parler Caldwell, l'ancien chef socialiste d'Ottawa, Gaitskell, le chef de l'opposition socialiste en Angleterre. On a même fait venir un socialiste célèbre, dit-on, un socialiste français, chef de la gauche européenne, André Philippe. Il est donc impossible de s'y méprendre, malgré que, pour ne pas effaroucher l'électorat qui a peur du socialisme, les gens réunis à Ottawa ont voulu éliminer le mot socialiste de leur parti, de la désignation de leur parti. Mais c'est bel et bien le Parti socialiste du Canada, un parti de lutte de classe. C'est pour cela qu'il prend les ouvriers avec lui, les ouvriers sont durs dans la lutte de classe. Un parti de lutte de classe, parti de planification, parti d'étatisme, parti d'internationalisme. Après, font venir le socialiste d'Angleterre, le socialiste de France, et en aurait fait venir d'autres s'il avait eu les moyens et si les invitations avaient été répondues. Au congrès du Parti socialiste du Canada, les socialistes ont applaudi deux points principaux du programme, la planification et l'embauchage intégral. Planification. Planifier quoi? Qui est-ce qui planifiera d'abord? Ce sont les socialistes quand ils sont au gouvernement à Ottawa. Donc c'est Ottawa qui fera les plans. Ce sera des plans d'État, des plans centralisé. Oh, je sais que André Philippe, dans son discours, a parlé d'une planification décentralisée. Allez donc décentraliser une planification. Une planification est nécessairement centralisée, autrement les plans ne s'exécutent pas. D'ailleurs, André Philippe a prétendu que la planification, en mettant tout le monde à l'emploi, serait une barrière au communisme. Cela ne tient pas debout. C'est en Russie et dans les autres pays communistes qu'il y a le plus de planification. Là aussi qu'on a l'embauchage intégral, même le travail forcé. Et donc pas la planification ni l'embauchage intégral qui est un obstacle au communisme. Ça va au contraire bien ensemble. Puis, si c'est l'État qui fait les plans, comment les fera-t-il exécuter? Il ne possède pas lui-même d'instruments de production. Il faudra donc qu'il s'empare des moyens de production, s'emparer des fermes, s'emparer des industries, ou, s'il ne s'en empare pas, dicter aux industriels, aux cultivateurs, ce qu'ils doivent faire. De toute façon, les maîtres de la propriété privée perdront l'emprise sur leur entreprise. Et comment le gouvernement planificateur financera-t-il ces plans? Il n'a pas d'autre moyen, il n'en a pas proposé d'autre que les moyens actuels, les taxes ou les emprunts. Les emprunts, après tout, ce sont des taxes différées. Les taxes, les impôts, plus les plans d'État sont gros, plus il lui faut d'argent, plus il lui faudra d'impôts et de taxes. Encore un bon moyen de conduire le monde sous la tutelle de l'État. Quand le gouvernement prend le pouvoir d'achat des individus ne pouvant plus vivre décemment avec l'argent qui leur reste, se tournent vers l'État. On a le paternalisme ou ou les travaux forcés et autre chose du genre. Ça veut dire que le Parti socialiste introduirait au Canada les plans d'État. Il introduirait la dictature d'État sans abolir la dictature financière. On aurait donc deux dictatures au lieu d'une. Dictature d'État, dictature financière. Jusqu'à présent, le Parti socialiste a recruté assez facilement des ouvriers, des syndicats. Les ouvriers sont plus faciles à recruter pour un parti socialiste parce qu'ils sont déjà socialisés. Ils dépendent déjà des plans que font les patrons. Les patrons sont de moins en moins nombreux avec la grosse industrie moderne. Et les exécutants, les simples exécutants que sont les ouvriers, sont de plus en plus nombreux par rapport au nombre du patron. Cela veut dire qu'ils sont déjà sous un régime socialiste dans la grande industrie. Quand l'État sera patron, ce sera encore pire. Mais pour eux, il ne va pas une grande différence. Être socialisé par l'industrie, avoir à obéir à un patron, à recevoir les ordres de lui, ou à les recevoir de l'État, c'est tout un pour eux. Il est vrai que le parti a aussi lancé un appel aux cultivateurs. Mais les cultivateurs sont des entrepreneurs. Ils connaissent mieux la liberté, la responsabilité personnelle. Ils n'ont point envie de se mettre sous le carcan de l'État, pas plus que les entrepreneurs d'ailleurs. Aussi, les cultivateurs font jusqu'ici la sourde oreille au Parti socialiste, Dieu merci, malgré cependant qu'il y a parmi eux des socialistes qui voudraient les embrigader. L'autre point, c'est l'embauchage intégral. On a beaucoup parlé de l'embauchage intégral. Pourquoi ce culte de l'embauchage? Qu'est-ce qu'il y a donc de si intéressant dans l'embauchage? Qu'est-ce que c'est que l'embauchage? L'embauchage, c'est l'emploi au service des autres. L'embauchage, c'est donc une servitude. Est-ce qu'on aime les servitudes? Même les ouvriers qui demandent l'embauchage intégral sont les premiers à demander des semaines plus courtes, des heures plus courtes. Ça veut dire qu'ils ne trouvent pas tant de plaisir dans l'embauchage. Ils veulent raccourcir le temps qu'ils sont embauchés. Pourquoi alors demander l'embauchage intégral quand l'embauchage leur pèse? S'ils aiment tant l'embauchage, qu'ils demandent donc des semaines plus longues comme embaucher. Au fond, quand ils parlent d'embauchage intégral, c'est parce qu'ils ont peur du chômage. Le chômage sans revenu impose certainement des privations. Ce qu'il faudrait demander, c'est ce qu'ils veulent avoir, de l'argent et non pas de l'embauchage. Demander un revenu intégral au lieu de l'embauchage intégral. Revenu intégral, cela veut dire un pouvoir d'achat calqué sur la production telle qu'elle est. Si la production est abondante, un pouvoir d'achat abondant. Si la production est facile, un pouvoir d'achat facile à obtenir. Et dans la mesure où la production est automatisée par le progrès, où l'on se passe de bras, dans cette même mesure, le pouvoir d'achat devrait être livré, dispensé, sans emploi, sans embauchage, gratuitement, comme le progrès lui-même. Mais là, ce serait du crédit social. Or, le crédit social n'a jamais été en faveur chez les socialistes, ni chez les chefs de syndicats. Le crédit social donnerait le pouvoir d'achat intégral et la liberté en même temps. Si l'on veut parler de travail, il est vrai que l'homme est fait pour être actif. Il est créé à l'image de Dieu, et Dieu est acte pur. L'homme est donc fait pour être actif. Mais si l'on veut parler de travail, qu'on mette donc l'accent sur les activités libres, et non pas sur les activités d'embauchage. Les activités libres, c'est bien plus conforme au caractère créateur de la personne humaine. Mais encore une fois, pour cela, il faut faire des changements dans le système financier parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de revenus à moins d'être embauché ou d'être embaucheur. Mais les embaucheurs sont de moins en moins nombreux et les embauchés de plus en plus nombreux. On a donc un parti socialiste au Canada qui cherche à prendre le pouvoir. Est-ce que le socialisme est la même chose que le communisme? Il faut admettre qu'il y a des degrés. D'abord, le communisme, c'est théoriquement diffère du socialisme en ce que le communisme croit pas à la création. Il ne croit pas que l'homme vient de Dieu. Il croit que tout vient de la matière en mouvement. Ça, ce sont des théories. Mais prenez la Russie. On a un parti communiste, mais là, il y a un régime socialiste. Il n'y a pas de régime communiste en Russie. Il y a un parti communiste, il y a des théories communistes, il y a l'athéisme communiste, mais il y a l'économie socialiste. La même chose que les socialistes voudraient établir dans les autres pays. Et c'est dangereux. D'abord, un auteur anglais, qui est lui-même socialiste, John Strachey, dans un livre qu'il a écrit sur le sujet, qu'il appelle « Théorie et pratique du socialisme », il dit « Il est impossible d'établir le communisme comme successeur immédiat du capitalisme. Il est donc proposé d'établir le socialisme comme une chose qui peut être mise à la place du capitalisme. C'est pourquoi les communistes travaillent à l'établissement du socialisme comme étape nécessaire de transition vers le communisme. Il est clair que le socialisme se trouve ainsi la transition vers le communisme, c'est l'antichambre du communisme. C'est la même utilisation de la personne humaine. D'ailleurs, le pape Pie XI a déjà mis les catholiques en garde contre le socialisme. Même le socialisme modéré, on a voulu faire du socialisme modéré au Congrès. Tous les socialistes réunis là n'étaient pas d'accord. Il y en avait qui voulaient du socialisme plus saugrenu, plus à gauche, d'autres non, afin d'obtenir plus de votes des électeurs. Mais lorsqu'il serait au pouvoir, eh bien, c'est l'aile gauche qui l'emporterait, autrement, les socialistes de gauche ou d'autres socialistes se tourneraient vers le Parti libéral, il n'y aurait pas de différence. Cela veut dire que c'est très dangereux d'avoir un socialisme même modéré. Et le pape Pie XI disait, on ne peut admettre en aucune manière que les catholiques donnent leur adhésion au socialisme modéré, soit parce qu'il est une conception de vie close sur le temporel, dans lequel le bien-être est considéré comme objectif suprême de la société, soit parce qu'il poursuit une organisation sociale de la vie commune au niveau de la production, au grand préjudice de la liberté humaine. C'est impossible d'organiser la planification sans nuire à la liberté de la personne. Le pape Pie XII a lui-même mis en garde aussi contre les plans d'État, donc les plans des partis qui veulent prendre le pouvoir pour mettre la planification. Il dit, ces plans réduisent les libertés individuelles, elles troublent la sérénité du travail, elles violent les droits de la famille, elles déforment le patriotisme, elles détruisent les précieux héritages religieux. Il est bien difficile, après cela, après les paroles du pape, et d'ailleurs après la réflexion sur ces choses-là, d'admettre le socialisme, de donner son nom, son adhésion au socialisme, à moins qu'on soit réellement de gauche et qu'on ne croit plus à toutes ces vérités essentielles-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre le socialisme? Faut-il monter d'autres partis? Faut-il, par exemple, pousser un parti de crédit social? Nullement. Ça n'est pas du tout la manière de faire un changement dans l'ordre, un changement qui en vaille la peine. Les divisions en partis politiques affaiblissent l'électorat. Elles ne le font pas triompher des obstacles financiers ou des obstacles que mettent des socialisants. Il faut arriver graduellement à des changements par l'éducation, par l'apostolat, par pratiquer soi-même une philosophie contraire au socialisme. Un auteur a bien écrit, un revirement d'opinion publique est toujours la première condition d'un changement de l'institution. D'ailleurs, c'est un gros travail qu'il y a à faire. Le pape Pie XII le disait, il faut refaire un monde à partir de ses fondations. De sauvage, le rendre humain, d'humain, le transformer en divin, ce qui signifie le modeler selon le cœur de Dieu. Cela dépasse infiniment les organisations de partis politiques et les campagnes électorales, qu'elles soient faites par des partis traditionnels ou par des socialistes ou par des créditistes.